France Culture.
Impeccable. Voilà. Allez, bienvenue.
Chez De Profundis.
Alors, tu peux poser tes affaires, on a un porte-manteau ici.
À deux pas du cimetière du Père-Lachaise à Paris.
J'ai une petite tradition.
Okay. En compagnie de Marlou Degal, spécialiste du tatouage traditionnel français.
Chaque personne que je tatoue, je demande un morceau de musique que je rajoute à la playlist. Comme moi, je vous laisse un truc, vous me laissez quelque chose.
Ok.
Donc ça peut être ce que tu veux.
Moi, j'ai envie de te dire Dalida, mourir sur scène, mais j'imagine que tu dois déjà l'avoir.
Je pense pas. Non, j'en ai qu'une et c'est pas celle-là. Allez, c'est bon, ça part.
Trop bien.
Merci beaucoup.
Tatouage, des mondes sur la peau. Une série documentaire de Jérôme Sandlars, réalisée par David Jacoboviez. Épisode 2, de l'infamie à la revendication.
Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi.
Ok, bon, je vais commencer. Une petite question avant, c'est que là on est sur un motif où je te tatoue une typo, un amour. Et au départ tu m'avais contacté, tu avais parlé d'une dague avec un cœur.
Là-bas je voulais une dague avec trois cœurs, donc c'était un peu représentatif de mon frère, de ma sœur et moi. Mais je me suis dit que j'allais peut-être me lasser du motif, et je trouvais que amour ça englobait beaucoup plus de choses.
On se passe pas de l'amour.
Enfin, en tout cas, pas de tous les amours.
Vas-y, montre-moi à peu près ce que t'as en tête et puis...
Alors moi au début j'avais en tête de le mettre en plein milieu.
D'accord.
On m'a dit que ça coupait la jambe.
Okay.
Mais en même temps j'aime bien le fait que ce soit en plein milieu. Et sinon je m'étais dit juste en dessous du genou.
Alors du coup sur le placement en général ce que je propose c'est pour rester un petit peu dans l'inspiration des tatouages de 1900 où vous avez pas de calque, de machin et tout. J'essaie de le poser de façon un peu bancale, d'accord, si ça te va.
L'objectif c'est pas d'avoir un truc parfait quoi. Clairement.
Alors, moi je fais pas ça de toute façon. Ça me va.
Ça va, t'es bien installé?
Ouais, parfait. J'ai la tête dans le petit trou là, c'est très bien.
Bon, qu'est-ce qui t'amène sous mes aiguilles?
Bah, ça fait un moment que je regarde ce que tu fais et j'aime bien la démarche. Moi mon père est archiviste, donc tout ce qui est un peu transmission. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est de la transmission, mais quand même, je pense que c'est ça. Hein.
Ah bah moi c'est mon but ultime, c'est de remettre cette culture sur le devant de la scène et surtout la préserver en fin de compte.
Ok, c'est trop cool, je suis ravie.
C'est quoi votre prénom?
Zoé.
Est-ce que c'est une façon de s'encanailler que de se faire tatouer?
Non, pas forcément, mais ça peut être une façon aussi de pas de se protéger, mais de se donner un petit côté bonhomme quoi. Moi je suis petite, dans la rue la nuit j'ai peur, des fois je me dis bon. Peut-être que ça va terrifier un peu les gens, c'est ça n'arrive pas, parce que ça n'arrive plus, mais... Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, une petite symbolique de... Je suis forte et ça va faire, quoi. Je vais juste boire un coup et j'arrive, si tu es prêt.
Je suis prêt. Bonjour.
Bonjour, on est bien chez Franck Sénateur?
Oui, tout à fait.
On a failli se tromper de porte parce que c'est quoi ce qu'il y a juste à côté là?
Ça c'est une porte de la santé.
C'est la porte de la santé?
Oui.
C'est la porte 2116.
C'est une des portes de cellules d'origine du modèle donc 19e de la prison de la santé. Ouais. Avec donc le petit bandeau en fait que les détenus donc actionnaient pour appeler l'attention des surveillants dans la coursive, et puis cette petite plaquette qui se déplace en fonction du nombre de personnes que occupe la cellule, vous voyez, 1, 2, 3, 4, et absent s'il n'y a personne, et donc le surveillant mettait ça quand les gars partaient soit à la visite médicale, soit au tribunal, soit étaient convoqués par le juge d'instruction, etc.
On entre?
Allez, bienvenue.
Franck Sénateur, président de l'association d'histoire pénitentiaire Fatalitas.
Il faut savoir que la première fois que le mot tatouage apparaît au greffe de l'administration pénitentiaire, c'est en 1817 au bagne de Brest.
Auparavant, on disait quoi?
On disait marque. Alors, on disait marque de couleur, marque de forme différente, c'était assez peu précis. Il faut savoir que ça s'intègre dans une logique du point de vue de la justice qui est la lutte contre la récidive, l'identification des récidivistes. Et donc, à l'époque des galères, on flétrissait les condamnés, c'est-à-dire qu'en fait, on les marquait au fer rouge sur l'épaule, avec donc les lettres TF pour travaux forcés, TP pour travaux forcés à perpétuité, ou F pour faussaire.
Et comment on fait cette flétrissure, là?
Ah ben là, c'est du marquage de bétail. Hein. Là, c'est des fers qui sont comme des fers à bestiaux, c'est-à-dire en fait un élément de fer forgé sur un manche en bois, et donc avec les lettres transposées, et on met ça dans de la braise, et après, c'est marqué définitivement. Et donc, 1748, les galères sont complètement obsolètes, finalement, et on va utiliser cette main-d'œuvre, la chourme, qui est à bord, pour les bagnes portuaires, pour effectuer les travaux les plus difficiles. Ça veut dire porter les canons, ça veut dire porter les boulets, ça veut dire porter les lestes, ça veut dire mettre à l'eau les bateaux, donc avec le risque de se faire écraser au moment où les cales de retenue cèdent, etc., etc. Et donc, dans ces greffes des bagnes, le premier étant donc Brest, on identifie les condamnés qui arrivent donc des différentes prisons de France où on les a donc regroupés, en vérifiant s'ils sont marqués, s'ils sont flétris, c'est-à-dire s'ils ont la fameuse marque qui vient du corps des galères. Donc à un moment donné, bizarrement, sur la chaîne, c'est-à-dire en fait le groupe de condamnés qui arrive sur la chaîne d'avril 1817, cette fois-ci au greffe, on marque tatouage. Et non seulement on marque tatouage, mais en plus on marque effectivement ce que c'est comme forme de tatouage. C'est-à-dire qu'on les identifie. Et on peut à ce moment-là comprendre que entre la dernière chaîne de 1816 et la première chaîne de 1817, la justice et l'administration pénitentiaire a compris que dans son intérêt, identifier ces tatouages, c'était une possibilité d'identifier les récidivistes.
Il y a une grosse interdiction du tatouage qui va arriver en 1860 dans la marine à cause d'un médecin totalement anti-tatouage qui s'appelle Berchon, qui va faire une thèse pour justement
Michel de Poissy
prévenir des risques de syphilis à bord de la marine française.
Auteur de Histoire du tatouage en France de 1770 à 1960.
Et cette interdiction va créer l'effet inverse de ce qu'elle a voulu faire, c'est-à-dire qu'elle va diffuser le tatouage. Les tatoueurs qui sont sur les ports vont tout doucement rentrer dans les terres et vont commencer à diffuser le tatouage comme ça dans une population qui était totalement préservé du tatouage, là, le monde paysan, le monde agricole, tous ces gens-là ne se faisaient pas tatouer, là ils se retrouvent avec ce qu'on va appeler des piqueurs publics, c'est-à-dire des tatoueurs itinérants. Les catalogues de marins avec des encres câblées, avec des sirènes vont commencer à changer, puisque quand on rentre dans les terres, forcément une encre câblée ça n'a pas de sens. Et la sirène va tout doucement se transformer en visage de femme. On va commencer à faire des tatouages amoureux. Et puis quand on va arriver dans les grandes villes, Lyon, Marseille, Paris, le visage de la femme va commencer à se transformer en prostituée, tout doucement. Puisque là, ils vont aller dans les quartiers chauds. Hein. C'est toujours un peu dans les quartiers chauds que ça se passe, dans les quartiers où il y a beaucoup de prostituées, beaucoup de militaires, voilà, des gens un peu ivres qui sont capables de se faire tatouer sur un coup de tête. Là, on est dans les années 1850-1860, puisque l'interdiction de 1860. Et il va y avoir un autre phénomène qui va aussi démocratiser beaucoup le tatouage, c'est qu'en 1870, il y a Constantinus qui va arriver et on va assister au premier phénomène de foire. Et ça devient une méga star. Il dit qu'il est capitaine, ce qui n'est pas du tout le cas. Il a des tatouages birmans alors qu'il est grec. Enfin bon, on s'y retrouve pas. En tous les cas, il y a toujours une histoire fabuleuse.
Dans le journal de Seine-et-Marne du 3 octobre 1874, Henri de la Porte relate.
Je me suis rendu hier soir aux Folies Bergères à la représentation et l'exhibition de l'homme tatoué. Imaginez-vous un homme ayant le corps entier couvert d'un nombre infini d'images, de dessins, de signes sacrés qui se mêlent, se croisent, se resserrent comme les ornements d'un cachemire de l'Inde. Le pointillage du tatouage, qui est bleu, est serré au point de produire l'effet de ton posé à plat. De loin, l'aspect de ce tatouage rappelle les splendides décors des potiches. La teinte générale est celle d'un camailleux au ton foncé. Les dessins sont très rapprochés les uns des autres et ne sont séparés que par de minces filets couleur de chair produits par l'épiderme du sujet. On compte sur son corps 388 tatouages, plus fantaisistes les uns que les autres. Des sphinx, des éléphants, des paons, des serpents naga, des crocodiles, des dragons mankou, des garoudas, etc. Iolaos Constantinos Dragoman, c'est le nom de cet être étrange, porte sur lui toute la mythologie birmane. Je vous raconterai dans ma prochaine chronique la vie toute d'aventure de ce tout tatou comme il signe invariablement quand il écrit une lettre, fût-ce à un ministre.
Alors là, on est face à une reproduction d'une affiche des Folies Bergères avec Constantinus. Il est inscrit juste en dessous, tatoué par ordre de Yacoub Beg, chef des Tartares, de 2 millions de piqûres et de 325 figures d'animaux.
Alors le seul truc qui est vrai là-dedans, c'est qu'il a 325 figures d'animaux. Par ordre de Yacoub Beg, alors là, chef des Tartares, mort de rire, et puis 2 millions d'aiguilles, je sais pas qui les a comptées. Mais c'était toujours ça. D'ailleurs, on va assister à ce phénomène jusqu'à la dernière grande star, qui est Gita Salomé. Gita Salomé, beauté orientale, hein, j'ai l'intégralité de toutes ces cartes postales de l'époque. Et pareil, tatouée de force par le chef des Sioux, du Dakota. Et à partir de là, on a toute cette espèce de légende qui va arriver dans les années 1890-1890. On a aussi Buffalo Bill qui va arriver porte d'Auteuil avec son fameux West Wild Show avec... des chevaux et des Indiens à plumes. On a des cartes postales avec des Indiens qui remontent les Champs-Élysées, qui sont incroyables. Et c'est là que le mot Apache va commencer à arriver chez les mauvais garçons.
Et ces Apaches, donc ces mauvais garçons, vont se faire tatouer à leur tour.
Ils vont forcément se faire tatouer, puisque tout ce qui est interdit est toléré dans la basse pègre, donc même très très fortement indiqué. Donc ils vont se faire des tatouages, et puis beaucoup de tatouages amoureux, puis ils vont aussi malheureusement tatouer de force. Ce qu'on va appeler leur marmite, leur femme, hein, parce que ce qui est important à cette époque-là, c'est d'avoir un cheptel. Hein. Tous ces mauvais garçons, on va dire que 90% de ces mauvais garçons sont des proxénètes.
Et ces femmes prostituées, donc elles étaient recouvertes de quel type de tatouage alors ?
C'était des proxénètes qui avaient coutume de mettre leurs initiales ou leur nom, comme on marque un chiffre sur son linge ou un nom sur sa porte. Et si, heureusement ou malheureusement, le proxénète partait au bagne à Cayenne ou se faisait tuer, elles étaient prises en main par un autre qui, bien sûr, effaçait le prénom, remettait un nouveau prénom. On voit ces filles, à partir de 40-50 ans, elles en paraissent tout de suite 70-80, elles sont totalement, les pauvres, marquées par cette vie très très dure.
J'ai garé ma mobilette devant l'entrée des artistes. J'ai laissé la porte ouverte pour avoir un œil sur elle. Il faudrait pas qu'on profite que je suis en train de vendre ma camelote pour se débiner sur ma chiotte. J'ai beau mettre des antivols, ça fait la 9e qu'on me pique. Ça fait la 11e que je vole. Et tous les apaches de Paris qui me voient passer sur ma bête, ils se fendent la gueule. C'est pas gentil. Laisse béton, je les mystifie. Sur le bras droit, j'ai un tatouage. Il y a une fleur, il y a un oiseau qui s'envolera plus jamais. Puis il y a le prénom d'une souris. Sur le bras gauche, il y en a un autre, un poulbo qui a une gueule d'ange et qui joue de l'accordéon. Puis en dessous, il y a mon prénom. Dans le dos, je voulais me faire tatouer un aigle, aux ailes déployées. On m'a dit, il n'y a pas la place. Non, t'es pas assez carré, alors t'auras un moineau. Eh, il y a des moineaux rapaces. Ça te fait marrer mes conneries, laisse béton, je démystifie.
Est-ce que tu peux mettre les bras le long du corps? Voilà, parfait, tu regardes droit devant. J'aurai besoin que tu me fasses un ourlet de plus sur ton pantalon.
C'est rigolo, quand on regarde votre site, on peut lire « Tatouage craignos sur belle personne ».
C'est pas moi qui les considère craignos, moi je les trouve absolument magnifiques. Et puis belle personne, parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a une démarche de la part des gens de venir se faire tatouer en ayant ce motif qui est un peu abîmé et en faisant perdurer cette histoire-là et cette tradition-là. Moi, je trouve ça beau.
D'où il vous vient votre surnom, Marlou de Galles ?
Au départ, moi, je suis un grand fan enfant des chansons de Renaud et ces chansons, ils parlaient beaucoup de Marlou. Et donc, à l'ancienne, les Marlous, les Loulous, c'était voilà, pour moi, c'est les petits voyous qui draguaient les bourgeoises à la sortie des balles. Et en faisant mes recherches sur la vie de voyous bordelaise de 1900, sur les Apaches bordelais, je me suis rendu compte qu'il y avait une rue qui cristallisait la vie de voyous, les tripots, les bars, les maisons closes, où tous les marins débarquaient sur le port et allaient jusqu'à cette rue, et elle s'appelait la rue de Galles. Et donc je l'ai cherchée et je ne l'ai jamais trouvée, parce qu'elle a été rasée dans les années 70, et j'ai trouvé que c'était un bel hommage pour mon pseudo, quoi.
Et puis vous êtes couvert de tatouages. Alors vous en avez sur les mains, sur les avant-bras, dans le cou, derrière l'oreille, sur le front, sous les yeux.
Moi, je me suis tatoué très vite, très jeune et beaucoup. Donc en fait, c'était plus une façon de mettre une distance visuelle quand j'avais 17-18 ans avec la société en général.
Et pourquoi marquer une distance avec la société?
Et ben, alors, je sais pas, ma psy serait ravie si on trouve la réponse aujourd'hui. Mais je pense que j'avais besoin de me réapproprier aussi mon corps, je pense. Et puis c'était, il y avait un côté un peu transgression extrême, en tout cas... quand j'avais 18 ans, parce que là j'ai 37 ans. Donc du coup, il y avait ce côté un peu. Voilà, à contre-courant, quoi. Je voulais exacerber.
Pour vous décrire un peu plus, Marc de Galle. Alors, sur vos paupières, vous pourriez fermer les yeux. Une petite lune avec une petite étoile à droite. De l'autre côté, j'ai l'impression que c'est un coucher ou un lever de soleil. Sous l'œil gauche, un petit cœur, mais fêlé.
Sur les paupières, le soleil, ça fait partie des tatouages traditionnels français que moi j'ai étudié, que je réplique. La lune et l'étoile également. Et donc la croix avec les quatre points autour, c'est un symbole qui veut dire ni Dieu ni maître.
Vous êtes un anarchiste.
On va pas aller jusque là sur les dénominations, mais effectivement, je pense que c'est un symbole assez revendicatif qui me correspond pas mal.
Et j'ai une question, est-ce que tu t'es intéressé aussi au tatouage militaire ou pas du tout?
En fait, la grosse partie de mes recherches notamment, elle est arrivée du fait justement que je me suis intéressé au tatouage militaire, parce qu'en fait, en France... Fin 1800, il y a eu la conscription obligatoire et on a essayé de séparer le bon grain de l'ivraie, passez-moi l'expression, mais grosso modo, les fortes têtes, ceux qui avaient déjà des condamnations ou des problèmes avec la justice, en fait, ils ont été envoyés quasi systématiquement dans ce qui s'appelait les bataillons disciplinaires. À l'époque, ça s'appelait Biribi. Et en fin de compte, ça a été un vivier absolument incroyable pour le tatouage. Et la majeure partie des photos de tatoués qu'on a de cette époque-là, en fait, ça provient justement de ces militaires-là.
Il y en a qui font la mauvaise tête au régiment. Ils tirent au flanc, ils font la bête inutilement. Quand ils veulent pas faire l'exercice et tout le fourbi, on les envoie faire leur service. Abiribi, abiribi.
Est-ce que je peux vous faire une proposition malhonnête, Franck Sénateur? Est-ce que vous seriez prêt à tomber la chemise?
Comme c'est le service public, je ne peux pas dire non.
Alors, sur votre avant-bras, vous avez plusieurs tatouages qui s'enchevêtrent, Franck Sénateur.
Donc, c'est l'histoire complète, le parcours type d'un mauvais garçon. Il faut savoir que la vie, finalement, commence à Maitrey, donc la colonie agricole de Maitrey, donc qui est à côté de Tours, pour un mineur.
Un mineur voyou.
Un mineur voyou, non, pas seulement, hein, un mineur vagabond, un mineur pauvre, un mineur placé dans le cadre de l'école paternelle par son père parce qu'il est un peu turbulent. De là, il est marqué à vie, et donc il va aller, vous voyez en haut, là, le dromadaire et les dunes, il va donc se retrouver à Biribi, hein. Et puis ensuite, donc, on voit que sa copine, donc, est sous un hôtel. Donc, on peut imaginer que, voilà, ça peut être une petite prostituée, ça peut être quelqu'un qui l'a connue comme ça. En tout cas, le parcours fait que ce sera pas la fille d'un notaire, c'est sûr. Et puis enfin, donc, si le parcours continue, il finit au bagne. Et là, la note d'espoir, c'est quand même que il arrive à rompre ses chaînes et peut-être, bien que ce soit inscrit fatalitas, peut-être sortir de la fatalité et arriver à recouvrer donc une vie entre guillemets normale.
Alors fatalitas, ça veut dire quoi? Fatalité.
Alors fatalitas, voilà, fatalitas, c'est important, c'est le mektoub, c'est le fatum, destin. Voilà, c'est le destin qui vous a mis sur des rails. Et donc très souvent, ce fatalitas, ils l'ont déjà quand ils arrivent au bagne, hein, les tatoués, parce qu'en fait l'origine du parcours, c'est quand même les colonies pénitentiaires d'enfants. Donc, colonie qui émerge au 19e sur des idées de philanthropes. Et puis, très vite, on s'aperçoit qu'en fait, le système amène sa propre contradiction et puis amène ses propres éléments de vice, avec des mauvais surveillants, avec un manque de moyens, avec des mauvaises conditions, avec un isolement, en fait, et puis avec une promiscuité sur des enfants qui avaient des parcours dits en fait, de délinquance complètement différents. Et surtout des âges complètement différents. On peut rentrer en colonie pénitentiaire à 6 ans et y rester jusqu'à la majorité 21. Donc les plus grands vont se tatouer, vont devenir un peu des durs, des caïds, et les plus petits vont subir les effets, y compris le viol de ces caïds dans les moments de proximité qu'ils vont partager. Et donc les enfants dans les colonies pénitentiaires sont les premiers qui se tatouent fatalitas, ou enfants du malheur, et en fait on sent que voilà, ils ont déjà une conscience, et c'est ça qui est terrible dans cette histoire, du parcours de vie qui les attend.
Et comment ils se tatouaient? Alors, c'est les plus grands qui les tatouaient, c'est plus jeunes, ou ils se tatouaient eux-mêmes ou...
Alors, la méthode, elle est très simple. Hein, c'est de l'encre récupérée soit pendant les cours d'école. Il faut savoir quand même qu'il y a une instruction qui est faite. Les plumes, c'est les plumes, en fait, des porte-plumes, tout bêtement. Et puis, donc, à partir de là, on voit que les motifs sont, encore une fois, des motifs, j'ose pas dire naïfs, parce qu'encore une fois, se faire tatouer enfant du malheur, en fait, à l'état, c'est pas naïf. Mais ça, c'est quand même relativement exceptionnel, sinon... C'est souvent des motifs très simples. On raconte l'exemple d'un gamin qui s'est fait tatouer par un prisonnier qu'il a croisé au tribunal et l'autre lui a tatoué une tête de cheval sur le bras pendant qu'ils attendaient le juge. Donc voilà, ça peut être vraiment à l'arrache et à tout instant. Donc le parcours, c'est enfant, donc jusqu'à ses 21 ans, on est dans cet univers carcéral de mineurs. Ensuite, on fait son service militaire dans des compagnies de discipline et donc double sentiment d'injustice et double rébellion. Et c'est là qu'on va trouver toutes ces inscriptions classiques. Mort aux officiers, mort aux vaches, la moustache donc qui va être tatouée parce que on leur interdit le port de la moustache. Donc ils vont se tatouer des moustaches. On les appelait les têtes de veau. Parce qu'ils n'avaient pas le droit à avoir de poils, ils devaient avoir le visage lisse. Ils se tatouent des moustaches et puis ils mettent les officiers en cochon, en fait, avec des têtes de porc, avec des galons et des képis. Ils se tatouent des légions d'honneur pour effectivement emmerder leur hiérarchie.
C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas dire, finalement, on l'inscrit dans sa peau. C'est vraiment un message qu'on adresse à l'autorité.
On adresse ce message à l'autorité par rébellion et antimilitarisme. Et en même temps... Ça identifie les clans, quoi. On fait partie des disciplinaires. On est donc un dur, un joyeux. Le joyeux, entre guillemets, c'est le terme qui désigne les disciplinaires des compagnies d'Afrique. Albert Londres le décrit dans le livre au bagne. Il interroge un condamné et il lui dit « Mais pourquoi vous êtes fait tatouer autant ?» Et les gars lui disent « Parce que je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. » Et en fait, ce retour en arrière, il est terrible, parce qu'on pourrait imaginer maintenant, aujourd'hui, que avec le détatouage, s'ils n'avaient pas été trop loin dans la démarche, ils auraient pu revenir à, entre guillemets, un aspect normal. Mais eux, dans leur culture et dans leur philosophie, c'est foutu. Ils sont rentrés dans cet univers, ils n'en sortiront pas.
Je tirais de ma poche une lampe électrique et la fis jouer. Sur le torse de celui qui me faisait face, j'aperçus quelque chose écrit. J'approchai la lampe et, dans son petit halo, lus sur le sein droit du bagnard. J'ai vu, j'ai cru, j'ai pleuré. L'amiral demanda « Vous n'avez pas une cigarette de France, chef ?» On n'avait pas de cigarette de France. Et je vis au hasard de ma lampe qu'il avait ceci tatoué au-dessous du sein gauche. L'indomptable cœur de vache. Les 6 ramaient durs. C'était lourd et la vague était courte et hargneuse. Curieux de cette littérature sur peau humaine, je feuilletais les autres torses, car pour être plus à l'aise, tous avaient quitté la souquenille. Sur le bras de celui-ci, il y avait « j'ai », puis une pensée était dessinée, et au-dessous « à ma mère », ce qui signifiait « j'ai pensé à ma mère ». Je regardais son visage. Il cligna de l'œil. Il faisait partie de ces forçats qui ont une tête d'honnête homme. Je me retournai. Les deux qui m'avaient fait passer le frisson dans le dos offraient aussi de la lecture. Sur l'un, 3 lignes imprimées en pleine poitrine. Le passé m'a trompé, le présent me tourmente, l'avenir m'épouvante. Le second n'avait qu'un mot sur le cou. Amen. « C'est un ancien curé !» dit l'amiral. On arrivait. J'ai pu voir bien des ports miteux au cours d'une vie dévergondée, mais Cayenne passa du coup numéro 1 dans ma collection.
Au bagne, Albert Londres, 1924. à partir de maintenant, vous êtes sous les lois spéciales de l'administration pénitentiaire de la Guyane française. Lorsque vous aurez fini de purger votre peine, ceux d'entre vous qui ont été condamnés à 8 ans ou plus resteront en Guyane comme travailleurs libres, et ceci pour une période équivalente à la période de leur condamnation. Quant à la France, dites-vous qu'elle s'est débarrassée de vous. Maintenant, ramassez vos effets et dispersez-vous.
Salaud.
Allons-y, en avant. Colonne par un pour le débarquement.
À cette époque-là, Franck Sénateur, est-ce qu'on utilise le terme tatouage ou on parle plutôt de bousille ?
Ah.
Et d'où il vient ce mot ?
Alors non, on utilise bien le terme de tatouage. Bousille, c'est un terme péjoratif qui a été utilisé par les journalistes et puis par les médecins, en fait, pour dire que, voilà, là, on est sur l'argot de bousiller, quoi. Bousiller la peau, bousiller une image. Et du coup, ça nous amène aussi à savoir que si il y a l'aspect artistique, il y a aussi un aspect qui est beaucoup plus noir, qui est le fait que ces tatouages vous enferment définitivement dans ce monde, dans cet univers. Et donc les gens qui vont se faire tatouer, en particulier ceux qui vont se faire tatouer le visage, parce que donc on a les exemples, Marcel Picard, qui est l'homme au masque, en fait, que va décrire Albert Londres, il tombe très vite, quand il est au Baddaf, sous le coup d'un caïd qui va se l'approprier comme une femme, en fait.
J'aimerais qu'on s'arrête un instant, Franck Sénateur, sur ces deux légendes signées d'Albert Hubaud, donc qui était un fonctionnaire civil de l'administration pénitentiaire, qui était en poste en Guyane, et qui a pris en photo Marcel Picard, et il dit « Cet homme travaux publics, où fleurit l'art du tatouage dans toute sa laideur, a le visage tatoué d'un loup et de crocs, de moustaches à l'encre de Chine. On imagine aisément la sympathie que peut inspirer une face semblable. On remarque que le torse et les bras sont également tatoués de divers sujets plus ou moins humains. Dans cet univers masculin privé de femmes, les hommes flirtent. Les caïdes ou forts à bras imposant aux plus faibles de devenir leurs mômes. Ils trouvent ainsi un peu d'affection, de chaleur humaine, parfois même une forme de protection. »
Alors, il faut savoir que l'homosexualité est omniprésente. Alors, elle est à la fois mal vue, mais en même temps encouragée, parce que ça fait partie aussi des éléments qui permettent aux surveillants, qui sont déjà, à l'époque, en sous-nombre, de gérer en fait la population pénale, en disant, voilà, les fortes têtes qui sont en couple, la menace, c'est, si tu déconnes, ben, ton môme, ton giron, ta môme, je te l'envoie sur un camp forestier où il va servir de pitance à tous les autres. Donc, t'as intérêt à te tenir à carreau. Et ça, les témoignages le démontrent de façon régulière, hein, récurrente.
Est-ce que ça va, niveau sensation ?
Ça fait pas trop mal, mais c'est pas non plus... Je me régale pas, quoi.
Ça me rassure aussi, ça veut dire que je suis en train de te tatouer quand même, tu vois. On n'est pas...
On a déjà fait le A ? Ah mais ça va. Oui, parce que je sentais que c'était la douleur s'était déplacée. Moi, ce qui me fait peur, c'est le O. Mais pour l'instant, c'est pas non plus... Enfin, j'ai pas envie de hurler, quoi. Ça fait mal, mais c'est comme ça.
Alors, ce qui serait bien, c'est que tu m'arrêtes avant que tu aies envie de hurler, peut-être, qu'on fasse une pause. Hein.
Mais ouais, je trouve ça... Enfin, franchement, ça fait tellement moins mal que la machine. C'est une dinguerie. Vraiment. C'est quand même une aiguille épaisse que t'as là, non ?
Une aiguille assez grosse, parce que moi le but du jeu c'est que visuellement et graphiquement on voit les points, donc en fait je suis à contre-courant même des autres tatoueurs qui font du handpoke en fin de compte.
Le handpoke, Marc de Galles, c'est à la main, hein, sans machine.
Alors oui, c'est vraiment juste une aiguille qu'on prend, on trempe dans l'encre et après on vient insérer un tout petit peu dans la peau. Voilà.
Donc là, on est à la bibliothèque universitaire de sciences.
Livia Rapatel, conservatrice des bibliothèques de l'Université Lyon 1.
Devant nous, on a en fait les fameux carnets d'Alexandre Lacassagne qu'on a longtemps pensé disparus. Ils ont été retrouvés il y a 3 ans. Et donc ces carnets, en fait, Alexandre Lacassagne s'intéressait donc aux tatouages. Et ces tatouages qu'il a recueillis sur la peau des soldats des bataillons d'Afrique, il les a décalqués sur leur peau et ensuite il les a classés par thématique. Donc on a devant les yeux 6 carnets, en fait il y en a 7. Et ces carnets sont classés donc par grande thématique. Donc il y a un carnet sur les bustes et têtes, il y a un carnet sur les emblèmes militaires, un carnet sur les métaphores, un carnet sur les thématiques érotiques. Voilà, donc tout est classé par Alexandre Lacassagne.
Avec des petits cartons donc sur lesquels il reproduisait les motifs, les tatouages, les petites phrases, les proverbes des disciplinaires, c'est ça, des bataillons d'Afrique, puisqu'il avait séjourné pendant quelques mois à la fin des années 1870 en Algérie.
Effectivement, Alexandre Lacassagne était médecin militaire et donc il était affecté au bataillon d'Afrique. Et donc, il avait recueilli sur ses soldats, à l'aide d'une toile qu'il a posée sur la peau des soldats, les tatouages qu'ils avaient. Il les a ensuite collés sur des cartons et colorisés quand c'était nécessaire.
Vous n'êtes pas seule, Livia Rapatel. Avec vous, il y a Muriel Salle, donc, qui est historienne, maîtresse de conférence à l'Université Lyon 1.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça vous fait de tenir peut-être pour une des premières fois, ou la première fois, ces carnets dans les mains?
La toute première fois où je les ai eus en main, qui n'est pas si lointaine, bah, c'était une émotion un peu particulière, parce que ces carnets, moi, quand j'ai fait mon DEA, ils étaient perdus. Et donc, du coup, leur valeur patrimoniale, elle a été, je crois, perçue relativement récemment, en fait. Hein,
2023, voilà. 2024, quoi, non?
Oui, quand ils sortent, effectivement, c'est 2023.
On peut en ouvrir un au hasard, Muriel Salle?
Ben alors, qu'est-ce que j'ai là? Emblèmes et inscriptions. Par exemple, là, on a quoi? Alors, on est de haut en bas, on a Enfant de la gaieté, qui est écrit avec une graphie un peu naïve. On a un cep de vigne avec une grappe. Et au dos, donc, on a la mention du nom du tatoué, donc un certain là, Ruibert, qui était au pénitencier de Birkadem. Et puis après, on nous dit que tous ces motifs, ils ont été relevés sur la cuisse droite, tiers moyen, face antérieure. Donc là, on a la précision anatomique, voilà. Donc à chaque fois, il a comme ça des éléments de détail.
Mort au tyran, pierre qui roule.
Pierre qui roule, Namas Pamous. Ah, mort aux femmes infidèles. Bon, tout un programme. Là, on est sur le volume qui rassemble les inscriptions. Donc voilà, l'amour et le vin dissipent le chagrin. Voilà, aphorisme des bataillons d'Afrique peut-être. Et alors, il y en a effectivement plus agressifs. La merde vaut mieux que la France entière. Ça permet de dire aussi que se faire tatouer quand on était au bataillon d'Afrique, c'est aussi une manifestation un peu résiduelle. Enfin voilà, ces hommes, ils sont enfermés, ils sont réprouvés dans l'institution militaire et même dans la prison de l'institution militaire. Et ils ont là une espèce de petit espace de liberté pour dire merde à l'institution et pour récupérer un petit peu, quelque part, de capacité de subversion. Y en a un qui s'était fait tatouer un superbe merde dans la paume de la main, ce qui, du coup, lui a valu d'être dispensé jusqu'à la fin de son temps militaire, de faire le salut militaire, parce qu'à chaque fois qu'il se mettait au garde à vous, bah, en fait, il disait virtuellement merde au gradé qui saluait, quoi. Donc, c'est, voilà, y a un peu là des pieds de nez à l'institution et à l'autorité militaire. Donc ça, c'est tout ça, c'est les motifs érotiques.
Ce sont des traits toujours assez simples. Hein.
C'est des dessins aux traits qui peuvent paraître volontiers un peu naïfs. Hein. Il ne faut pas du tout s'imaginer des dessins qui soient très élaborés. On n'a pas des dessinateurs qui maîtrisent parfaitement ni l'anatomie ni la perspective. C'est le moins qu'on puisse dire. Là, on arrive sur les tatouages qui sont effectués sur la verge. Voilà. Donc on a un grand classique du motif érotique qui consiste à se faire tatouer une botte sur la verge, parfois accompagné d'un petit mot qui va avec, qui proclame que la verge en question est un robinet d'amour. En fait, ça fait référence à une espèce de menace qui traduit aussi un peu l'espèce de ce qu'on appelle l'homosocialité qui pouvait régner dans ces milieux exclusivement masculins et clos, où il était coutume de se menacer réciproquement, de se mettre la botte au cul, voilà, ce qui était une menace de rapport sexuel entre hommes qui pouvait évidemment avoir lieu dans ces milieux où les femmes sont absentes.
j'aime bien dans ces tatouages-là, c'est que la façon dont je les collecte, j'essaye de pas modifier la forme, le sens, la taille. On le voit en fait qu'il y a des problèmes de typo, que par exemple le A est un peu plus petit que le R, que la courbe est pas exactement bien. Par exemple, si on avait dû s'adapter vraiment à ta morpho, je pense qu'on l'aurait peut-être incurvé un peu plus, etc. Là, le fait que ça soit droit, c'est, voilà, c'est cool. Je trouve que ça fait un hommage justement au tatouage naïf et singulier de l'époque. Voilà.
Marlou de Galles, l'époque, c'est quoi, 1870-1920?
À peu près. Je me suis basé sur ces dates-là, parce que c'est vraiment là où j'ai le plus de photos, de notes, etc. Mais en fait, ça commence avant, ça continue après, c'est un peu plus flou que ça, finalement.
Tu fais de la couleur ou pas du tout?
Non, alors normalement, je fais pas de couleur. C'était pour rester dans l'ADN un peu global des témoignages de l'époque, parce qu'en fin de compte, les photos étaient souvent prises en noir et blanc, ou c'était des vieilles photocopies, ou des choses comme ça. Donc le but, c'était de pas interpréter différemment. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'on a eu une trouvaille absolument incroyable, à savoir les carnets retrouvés du docteur Lacassagne, en l'occurrence, à Lyon. Et là, il a mis de la couleur, lui. Il y a du vermillon, il y a du bleu indigo, il y a... voilà. Donc, peut-être, si je veux être accurate historiquement, il faudrait que je me mette à faire de la couleur, en fait.
Si on évoque Alexandre Lacassagne, Muriel Salles, c'est parce qu'il est reconnu aujourd'hui comme un des pères de l'école lyonnaise de la criminalistique, on va dire, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, Alexandre Lacassagne, c'est un médecin. Il n'est pas lyonnais de naissance, il est né à Cahors en 1843, mais il fait des études de médecine alors même que lui-même n'est pas non plus fils de médecin. Hein. Son père tenait un bistrot à Cahors, donc voilà. Et il arrive à Lyon, où il va occuper une place importante, hein, puisque effectivement, il va détenir la chaire de médecine légale à la faculté de médecine de Lyon, et puis développer des savoirs dans ce qu'on appelle aujourd'hui la criminologie médicale. Hein. Donc il est le premier à avoir l'idée de ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode indiciaire, donc à se dire que ben, quand on est sur une scène de crime, il peut y avoir un intérêt à relever un certain nombre de signes ou de marques, par exemple de traces de pieds qui auraient été laissées par éventuellement un criminel. Et c'est la même démarche qu'il a avec les tatouages. Les tatouages, c'est des signes qui sont supposés parler pour ceux qui en sont porteurs, en fait. C'est des indices.
D'identification.
Et c'est des marques d'identification. Et puis, il y a quand même une idée forte chez Lacassagne qui disait volontiers que le degré de criminalité était fonction du nombre de tatouages dont on était porteur. Donc, voilà, c'est un signe d'infamie majeur.
Muriel Salles, sur la réédition donc de l'étude anthropologique et médico-légale d'Alexandre Lacassagne, les tatouages, on parle de cicatrices parlantes. C'est une expression de Lacassagne, ça, cicatrices parlantes?
Alors oui, là en l'occurrence, qui est reprise par un autre historien qui est Marc Renville. Hein.
Le Criminocorpus.
Mais voilà, hein. Effectivement, un collègue de Criminocorpus. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est tous porteurs d'une carte d'identité dans la poche. À la fin du 19e siècle, ce qu'on a pu appeler parfois les identités de papier, ça n'existe pas. Donc les populations qui circulent peuvent le faire en tout anonymat. Et donc il y a un vrai souci d'identifier avec certitude les gens. Et les enjeux de la criminologie, c'est ça aussi, c'est d'identifier les individus, les reconnaître, et le cas échéant, s'ils sont rendus coupables de quoi que ce soit, bah, les confondre, en fait. Voilà. Donc on peut être trahi par ce signe du corps dont on a décidé de s'orner volontairement et pour d'autres raisons, quoi.
Qu'est-ce qui vous a séduit chez ce personnage de Lacassagne, Muriel Salles?
Alors moi, ce qui me séduit particulièrement chez Alexandre Lacassagne, c'est que c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas tout à fait ce qu'il a l'air d'être. On a quelques belles photographies de Lacassagne qui nous montrent un beau notable de la Troisième République, voilà, qui a la moustache, l'embonpoint, sûr de lui et de sa valeur. Et puis quand on commence à ouvrir un peu ses archives, sa bibliothèque, on se rend compte qu'il a des intérêts pour tout un tas de sujets qui paraissent un peu surprenants.
Aux marges, on pourrait dire presque.
Voilà, c'est les marginaux, donc effectivement, il collectionne les tatouages, mais dans le même ordre d'idées, il a essayé d'élaborer un dictionnaire d'argot, donc il essaye d'apprendre la langue de ces populations marginales. Il collectionne aussi les autobiographies de criminels. Du coup, ça veut dire qu'il prête de l'intérêt, qu'il prête du crédit, de la valeur à la parole de ces individus qui avaient vocation à rester dans l'oubli, à rester des anonymes.
Nous sommes les mordus de la vie. car la vie nous a mordus. Et sur nos peaux, elle a inscrit les petites et les grosses conneries ineffaçables. Nous nous sommes tatoués sur la peau la lutte et la mort des costauds. Et pour montrer qu'on n'est pas des lâches, on s'est zébré le front avec des morts bâches.
Dans votre livre sur l'histoire du tatouage en France de 1770 à 1960, Miquette de Poissy, vous dites « L'argot est à la langue française ce que le tatouage est à l'art, une expression imagée dont la puissance réside dans sa simplicité même. » C'est beau, ça.
Mais c'est ce que j'ai ressenti. Il suffit de regarder tout simplement la nomenclature du tatouage français en 1900. On tape juste et on tape fort. C'est la phrase que je dis après. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de parler pendant des heures et des heures. Né sous une mauvaise étoile, enfant du malheur. Les gens qui parlent argot sont souvent ceux qui vont se faire tatouer.
Mais se faire tatouer, Miquel de Poissy, est-ce que c'est pas aussi une manière de se créer un récit, je dirais même une légende?
Eh ben, si on reprend l'argot, par exemple, la phrase que vous avez dite, je reprends d'ailleurs en exergue dans mon livre une phrase de Victor Hugo qui dit « L'argot, c'est la langue qui devient forçat ». C'est une très belle phrase, bon, comme toutes les phrases de Victor Hugo, à chaque fois il avait des punchlines qui étaient complètement hallucinantes, mais je veux dire, le tatouage aussi, c'est une forme d'art qui devient forçat. On peut à chaque fois faire la comparaison entre l'argot et le tatouage. Se créer son propre imaginaire ou se créer sa propre légende en se faisant tatouer, bien sûr, bien sûr. Mais c'est aussi un CV criminalistique. Si on est au bagne de Calvi, on va se faire tatouer une grappe de raisin parce que c'est là où on ramasse le raisin. Les prisonniers de la centrale de Poissy, en 1900, ils se faisaient tatouer un poisson. C'était des poisseux, des poissards. Ils venaient de Poissy. D'ailleurs, dans l'argot, ce qui est assez extraordinaire, c'est que le poisson, on va dire que c'est une brème. On va dire que c'est une tanche, on va dire que c'est un maquereau. On va dire que le maquereau, c'est parce que c'est lui qui organise, dans les fonds sous-marins, la rencontre entre deux sortes de poissons. C'est pour ça qu'on appelle ça un maquereau. Et c'est pour ça que les boîtes de nuit, en 1900, avec l'accordéon et tout le toutim, on appelait ça des aquariums, parce qu'on trouvait toutes sortes de poissons. Donc tout ça, ça fait sens, en fait.
L'art du tatouage entre dans une phase de décadence. Les armoiries se transforment en poussière avec le corps des derniers tatoués. Les anciens chevaliers de la Bastille et de Pigalle se plaignent de n'avoir plus d'élèves auxquels transmettre les secrets du noble langage.
Extrait de La peau du milieu de Gabriel Pomerant, 1957.
Pour baratiner, on n'a pas le temps. On n'a pas assez de peau pour un roman. Un petit mot par-ci, par-là et blanc. On est enfermé bien qu'innocent. Et on nous laisse penser nos écrits.
En conclusion de son étude anthropologique et médico-légale, donc intitulée Les tatouages, Alexandre Lacassagne écrit ces lignes. Longtemps encore, le tatouage sera adopté dans tous les pays et dans certaines classes de la société. Muriel Salle, c'est un visionnaire, quoi.
Ça aussi, je trouve que c'est peut-être un peu touchant, c'est de constater que, par-delà, pour ce qui nous concerne la distance de temps, par-delà, pour ce qui concerne la Cassagne et les réprouvés auxquels il s'est intéressé, la distance de classe, et puis par-delà la distance géographique, hein, parce qu'il sait bien que la pratique du tatouage, elle existe dans des contextes exotiques, entre guillemets, et ben, on a une pratique qui demeure et qui circule, et qui est ce désir de se marquer la peau avec des motifs qui font sens. Quand on est porteur d'un violon, c'est parce qu'on a été mis au violon, donc on a fait de la prison. Quand on est porteur d'une encre et des encres, il y en a des collections, c'est parce que on a fait partie de la marine. Enfin, voilà, c'est pas des signes qui marquent l'originalité d'un individu, c'est vraiment des tatouages qui ont vocation à les inscrire dans une communauté d'appartenance, quoi. La dimension complètement, enfin, vraiment très différente, enfin, la valeur aujourd'hui contemporaine du tatouage, qui est une marque de subjectivité, le signe qu'on est un individu et qu'on est porteur de signes originaux, voilà, ça c'est quelque chose qui date du dernier tiers du XXe siècle.
Je ne porte pas de perlouse. Je ne suis pas un nervi, je trouve que ça fait tartouze. Et c'est pourquoi moi je vous le dis, j'ai l'air de ne pas avoir l'air, mais avec mon air je fais la pige à bébé. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas des manières, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer.
J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles, il en faut pour que je m'emballe. J'ai distingué d'un tatoué, un dur, un vrai.
Vous êtes un vrai, un dur, un tatoué, vous, Tintin?
Oh, moi je suis un tatoué, je suis pas si dur.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Là, je suis en train de tatouer un vrai, un dur, un tatoué. Par contre, là, on a du sérieux. Du garde du corps.
Un ami.
Depuis plus de 20 ans. Et c'est tout ce qu'il voyait sur moi, c'est lui qui l'a fait. Donc, il n'a pas plus d'enfant de lui que moi.
Qu'est-ce que vous êtes en train de lui tatouer, ce monsieur qui s'appelle? C'est quoi votre prénom?
Marco.
Marco.
Je suis en train de lui tatouer un vieux terme de la culture chicanos, on va dire. Mi vida loca, ça veut dire ma vie de fou. Donc oui, c'est un peu un tatouage de gens qui ont vécu, on va dire.
Vous avez eu une vie de fou?
Ben, je crois, oui. J'ai vécu dans 4 pays différents. Et puis, aujourd'hui, cette phrase... Je peux l'écrire parce que j'ai beaucoup, passé beaucoup de choses dans la vie, des choses que je suis fier de dire et pas autres. Il y a certains tatouages qui expriment mes pensées sur la vie. Celui-là, c'est une phrase de Winston Churchill, « If you're going through the hell, keep going ». Ça veut dire, quand on est dans la merde, il ne faut pas s'arrêter de marcher, il faut continuer, parce qu'il y a un chemin de sortie, on sortira quoi qu'il arrive.
Forcément, quand vous me dites ça, je suis passé à travers l'enfer, mais j'ai continué. Moi, j'ai envie de vous demander à quel enfer vous faites référence.
Bah, quand j'ai habité en Afrique notamment, etc., qu'il y avait des moments où on se trouve vraiment dans l'enfer, et qu'on a envie d'abandonner. Mais c'est le moment où il faut vraiment serrer les dents, il faut passer à cette phrase-là, il faut avancer dans la vie.
Qu'est-ce que vous faisiez là-bas?
Bah, je faisais partie des forces spéciales, c'était des trucs paramilitaires. Donc, il y avait des moments où c'était vraiment difficile. Il y avait des choses que j'ai fait que j'étais pas fier de l'avoir fait, mais qui étaient nécessaires pour ma survie. Sinon, je serais pas là aujourd'hui. Donc, chaque tatouage que j'ai sur moi, ça fait partie de ma vie. J'ai commencé longtemps, et puis une fois qu'on commence, on a mal à s'arrêter, quoi. Et je vous laisse la vraie vedette qui est juste en face de moi, qui est en travailler, parce que tous les stars sont passés par là. Des stars mondiaux comme Beyoncé, son mari Jay-Z, Brad Pitt, Angelina Jolie, etc. Donc je me sens privilégié d'être tatoué par Tintin.
D'où il vous vient ce surnom? Parce que c'est pas votre vrai prénom, Tintin.
Il y a plein de légendes. Hein. Il y en a qui disent que c'est à cause d'une coupe de cheveux. D'autres, c'est parce que je m'appelle Constantin. Et donc, j'avais deux choix de surnoms. J'avais Concon ou Tintin. Alors, j'ai pris Tintin, ça passait mieux. La première fois que j'ai vu un tatoueur professionnel, ça m'a tout de suite donné envie d'en faire. Parce que, bon, quand on voyait les tatouages faits à la main dans le métro, les calvaires des voyous et tout ça, ça m'a jamais vraiment attiré. C'était pas très joli. Et dès que j'ai vu une machine à tatouer, j'ai eu envie de l'attraper et puis de me mettre à la place du tatoueur, persuadé que j'allais faire mieux qu'eux, comme quand on est jeune et persuadé.
Vous avez commencé à quelle période, vous, Tintin?
J'ai commencé en 1984, donc vous voyez, ça fait presque 42 ans. Comme j'en ai 60, ça fait que j'ai commencé quand j'avais 18 ans. On va remettre de l'encre, parce qu'il n'y en a plus. C'est personnel un tatouage aussi. Chacun fait ce qu'il veut avec et chacun s'inspire de ce qu'il a envie. Et c'est normal que votre vie vous inspire le choix des motifs ou pas. Moi, par exemple, j'ai que des dessins qui ne veulent rien dire. J'ai une poêle dans la main, par exemple. Voilà. Donc, il y en a, ils ont un poêle dans la main. Moi, j'ai une poêle parce que j'aime bien la bouffe. Donc, voilà. Je pourrais me faire tatouer une villa sur la côte aussi. Histoire d'avoir une villa sur la côte.
Je m'appelle Slimane et j'ai 15 ans. Je vis chez mes vieux à la Courneuve. J'ai mon CAP délinquant. Je suis pas un nul, j'ai fait mes preuves. Dans la bande, c'est moi qui ai le plus grand. Sur le bras, j'ai tatoué une couleuvre. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur. La douleur et la nuit.
Valérie Roll.
Bonjour.
En 2013, vous avez écrit une thèse qui s'intitule « L'art de tatouer » et puis plus récemment, un petit ouvrage intitulé « Le tatouage » sorti en 2024. À quel moment, pour vous, il y a eu comme ça un tournant qui marque la réhabilitation du tatouage ? Parce que pendant longtemps, le tatouage avait une image assez sulfureuse.
Alors, elle l'a eu effectivement pendant toute la première moitié du XXe siècle, sous l'effet du travail acharné des criminologues. Et c'est précisément pour cette valeur sulfureuse que des groupes sociaux vont s'approprier la pratique, notamment les milieux bikers à partir des années 40, un marquage, signe de virilité, de témérité, mais aussi pour la valeur rebelle de la pratique. Mais elle gardait socialement parlant quand même une valeur très négative, était très mal perçue. Et il va y avoir un tournant à partir des années 70-80. Alors c'est un moment où des tatoueurs vont dire bon, on va détacher le tatouage de son passé sulfureux. Donc hop, on met de côté les vieux flashs de bateaux d'encre marine, etc., à la faveur de motifs qui peuvent couvrir des parties du corps beaucoup plus importantes, qui sont pensées comme des projets, comme les fameuses carpes japonaises, les dragons ou des motifs tribaux qui sont très géométriques. Puis ce qui va se passer et qui va contribuer aussi à ces transformations, c'est la diffusion de nouvelles pratiques sanitaires. C'est-à-dire qu'à partir des années 80, on va commencer à porter des gants, à stériliser le matériel d'ancrage, tant et si bien que la pratique va gagner en acceptabilité sociale et voir le contingent de ces enthousiastes grossir de manière absolument extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est aussi sur le profil social, et là je parle d'appartenance de classe, qu'on peut observer les choses parce que c'est une pratique qui historiquement est populaire, qui s'ancre vraiment dans les classes et dans les milieux populaires et qui, à la faveur de cette réhabilitation, va se diffuser vers le haut de la hiérarchie sociale, notamment dans ce qu'on appelle les classes moyennes ou intermédiaires, mais aussi supérieures, même si c'est dans une proportion qui reste un peu plus minime, évidemment, que dans les classes populaires, où la pratique du tatouage garde un ancrage qui est absolument indéniable. Alors, ce qui est intéressant aussi...
Et
sur
plus d'hommes que de femmes ou plus de femmes que d'hommes?
Exactement. Ça, c'est un gros changement dans la pratique du tatouage. C'est-à-dire qu'avant, on peut dire qu'elle était un peu enfermée dans une capsule populaire, masculine. Et à partir du moment où elle gagne en acceptabilité sociale, elle va très fortement se féminiser. Et ça, c'est un gros changement des années 90 qui fait que c'est moins problématique pour une femme de se faire tatouer. Pour moi, s'il fallait retenir un tournant majeur, ce serait vraiment celui-là.
Vous en êtes au R de Amour ?
Exactement, on est sur la fin.
Et alors là, le fait que Amour soit tatoué sur le tibia, du coup, il va pas trop se friper.
J'ai tendance à me faire tatouer sur des endroits où les désastres du temps n'auront pas forcément beaucoup d'effet, quoi. Un tibia, ça reste un tibia. Je vois le tibia de ma mamie qui a 85 ans, c'est un tibia lisse. Donc, je me dis qu'avec un peu de chance, c'est quelque chose qui va moins bouger. Enfin, je vais pas aller me faire tatouer sur le ventre, quoi.
Donc, votre amour va pas trop se flétrir.
Exactement. Il va rester frais pour l'éternité, là.
Alors, c'est là où c'est rigolo, c'est peut-être pas pour l'éternité quand même, hein. Excuse-moi, mais c'est là où ma pratique elle m'a pété à la tête un jour, c'est que j'avais l'impression de faire des tatouages et de laisser une trace pérenne dans la transmission de ces tatouages-là. Puis après, j'ai percuté que moi, j'allais mourir et que tous les gens que je tatouais, potentiellement aussi.
C'est vrai.
Pas pour mettre une mauvaise ambiance à vous voir, hein, désolé. Hein. Okay. C'est bon, on a fini.
Ouais. Ça.
Je te laisse jeter un œil. Tu me dis ce que t'en penses.
Je suis trop contente. C'est trop beau.
Ouais, trop bien.
En plus, ça a pas trop gonflé. D'habitude, je gonfle, mais je gonfle, hein. Donc là, c'est bien. Ouais. Et franchement, je suis agréablement surprise du fait que le tibia, ça fait pas mal, hein.
Zoé, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que mon tatouage vieillisse bien et plaise à plein de gens. Enfin, non, me plaise à moi surtout, mais que ça fasse un peu l'unanimité.
Beaucoup d'amour?
Ouais, surtout, ouais. J'en ai déjà pas mal, mais encore plus, on en a jamais assez. C'est vraiment ça. Et puis ça va me changer, la jambe. Parce que le bras, je les vois tout le temps. Ça va être un rapport différent, je pense.
C'est bon pour toi?
Oui, c'est bon.
Merci à toi, Zoé.
Trop cool. Je suis ravie. Triste d'être en hiver et de devoir mettre des pantalons, franchement.
Non, mais c'est bien, comme ça il cicatrisera plus vite.
Moi je trouve ça que ça fait, c'est trop badass alors. En vrai.
Amour sur le tibia, c'est badass.
Ouais, grave.
Trop bien.
Franchement, oui. Ma grand-mère va en péter. Vraiment. Elle va voir ça, elle va dire Seigneur.
C'était Tatouage des mondes sur la peau, épisode 2 de l'infamie à la revendication. Un documentaire de Jérôme Sandelars, réalisé par David Jacuboviez. Avec Marlou de Galle, Zoé, Franck Sénateur, Michael de Poissy, Livia Rapatel, Muriel Salle, Valérie Roll, Tintin et Marco. Et des extraits de Peau M de Renaud et du film Papillon de Franklin J. Schaffner avec Steve McQueen dans le rôle titre. Lecture, Florent Baffy. Documentation, Annelise Signoret. Prise de son, Maëlle Larfassor, Johanna Gabric et Manon Houssin. Mixage, Dophar Guérid. Chargé de programme, Anaï Morales et Marie-Yvonne Abolivier. Coordination, Emmanuel Laurentin. À suivre, épisode 3, une thérapie par l'aiguille.
On a fait toute une affaire, des lutteurs, des catcheurs, des boxeurs, des tombeurs. Pour moi, ça, c'est de la petite bière. Tous ces mecs à biceps ne m'ont jamais fait peur. Leur soi-disant combat, c'est du chiquet. Ils passent leur temps à se caresser. S'il y en a un dans la salle aujourd'hui, qui vienne ici, il sera servi. C'est moi la môme cache-cache. Voyez mes gros biscottos costauds. Avec ça, j'ai l'air vache. Et une paire de pectoraux taureaux. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds nickelés. J'ai les pieds au mur comme un échalant, le grand écart et je crache à 15 pas. Je bois du gros qui touche, c'est moi la môme cache-cache. Un jour dans une bagarre, avec deux affranchis dans le quartier de l'Arsenal, j'ai cogné sans crier gare. Le premier en est mort, l'autre est à l'hôpital. Les flics sont arrivés naturellement, bien après coup, c'est plus prudent. Ton nom me dit le commissaire au quart, puis dis avec toi, pour pas le savoir. C'est moi le môme cache-cache. Voyez mes gros biscottos costauds. Avec ça j'ai l'air vache. Et une paire de pectoraux taureaux. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds tatoués. J'fais les pieds au mur comme un échalot, le grand écart et je crache à 15 fois. Je bois du gros qui touche,
montrez-moi la môme gâche-gâche. De fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds tatoués. Je fais les pieds au mur comme un échalot, le grand écart et je crache à 15 pas. Je bats du gros qui te chote, c'est moi la môme catch-catch.